Trump va-t-elle galvaniser l'extrême droite européenne? Cela va-t-il se traduire dans les urnes lors des prochaines échéances électorales comme en Allemagne le 23 février? Un mouvement méga, Make Europe Great Again, est-il en train d'émerger sur le vieux continent?
Une vague nationaliste qui déferle en fait sur tout le continent européen et qui n'a pas attendu la réélection, enfin la nouvelle élection de Donald Trump. Là où il y a un effet, c'est que cette élection, nouvelle élection de Donald Trump surligne et finalement renforce cette vague. On le voit, rien que cette réunion dont votre sujet vient de parler, en fait avait pour nom Make Europe Great Again. Et en fait, c'est intéressant parce qu'à la fin janvier, il y avait un autre groupe nationaliste des conservateurs et réformistes européens qui avait choisi exactement le même nom. Et vous avez la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne qui, pareil, avait choisi ce même nom. C'est pour dire le retentissement qu'a Donald Trump chez les nationalistes européens. Et depuis son élection, on voit que ça a eu des effets. Enfin, là, vous avez bientôt des élections en Allemagne.
Législatives.
Et il y a un écart entre la force de droite traditionnelle qui s'appelle la CDU et la force nationaliste qui est l'AFD qui s'est très très largement resserré. L'écart qui était de 14 points est maintenant de 9 points. Pareil, on voit le parti de Nigel Farage qui a dépassé le parti travailliste. Donc on voit que finalement c'est une vague qui préexistait à Donald Trump mais qui est renforcée et qui donne ce sentiment de grand mouvement qui était européen et qui en fait qui dépasse en fait même le continent.
Catherine.
Je crois que c'est assez compliqué. Effectivement, ils sont galvanisés, ils ont tendance à se prosterner devant Trump. C'était quand même une grande messe. Ils ont tous plié genoux, baisé la bague du grand Trump. Mais je pense qu'il y a des limites très certaines, puisque nous parlons quand même de leaders qui sont des leaders de pays, qui sont des membres de l'Union européenne, qui vont être quand même un petit peu empêchés d'agir par les règles de l'Union européenne, et puis surtout qui ont en chacun quand même des intérêts commerciaux divergents d'abord, et puis surtout qui vont se heurter, à mon avis, à la sauvagerie de la guerre que va mener Trump contre toute l'Europe.
On va en parler de ça, la guerre commerciale, on va y revenir.
Voilà. On passe un peu à côté de Trump, parce que Trump, c'est un peu comme Janus, vous voyez, le dieu romain. Il a deux visages. Est tourné vers l'avenir, 500 milliards pour l'intelligence artificielle, arrêter les normes et tout pour libérer la créativité. Mais c'est aussi la clé de la puissance des nations. Parce que la créativité, c'est pas l'innovation. L'innovation, ça veut dire la puissance et la richesse. Et donc, en fait, ça, il le comprend. La Chine aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Ça, il le comprend. C'est la côté avenir. Donc, on va libérer la créativité. Mais le côté passé, c'est que, et ce que vous disiez tous les deux à juste raison, le côté passé, c'est que il fait du protectionnisme. Attention, c'est pas de l'isolationnisme, c'est du protectionnisme offensif. C'est-à-dire qu'il va protéger son marché, et là, il est plus du tout dans l'ouverture de la créativité, il est plus dans les échanges de créativité.
Il est contre la vieille Europe.
Il est pour ou contre, c'est pas le problème. Il s'en moque en réalité. Le problème, c'est America First. C'est-à-dire que si ça l'intéresse, ok, si ça l'intéresse pas, et c'est très différent de ce qu'on a vu dans une partie de l'histoire américaine avec le courant qu'on va appeler Jeffersonien pour aller vite, qui est d'ailleurs très important dans le Parti républicain, mais qui a été battu par lui, par le courant jacksonien, parce que ce courant jeffersonien, il disait les droits de l'homme, la liberté, etc. Lui, c'est pas son problème. Son problème, c'est la puissance américaine. C'est vraiment l'héritier de Jackson et de Washington, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment ce grand courant America First qui est très vieux, qui est un des plus grands courants, un des plus vieux courants américains. Donc, si vous voulez, on est en face de ça, et d'ailleurs, pour ça que mon bouquin, il répond à ça, parce qu'il dit voilà, l'histoire, l'avenir de l'humanité, c'est bien la découverte de la créativité, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles. Des prophètes de malheur et des normes.
Alors, et d'ailleurs, c'est trouver les valeurs d'antan qui ont fait la puissance de nos pays et de nos nations. Alors ça, c'est intéressant, parce que s'il y a... Ils ont énormément de différences, toutes ces forces.
Oui, mais alors, point commun,
et donc, si vous voulez, c'est que ça souligne bien dans quel clivage, polarisation nouvelle, identitaire, dans lequel tous ces pays et ces forces s'inscrivent. C'est-à-dire que vous voyez une polarisation qui n'est plus sociale comme il y a 20 ans, mais identitaire avec cette question centrale du mode de vie. On voit une société divisé en deux parties.
Des élites.
Des personnes qui se sentent récipiendaires d'un héritage qui vient de leurs grands-parents, de leurs parents, et qu'ils aimeraient transmettre à leurs enfants et qui sentent que cet héritage, ce mode de vie est attaqué. Et de l'autre côté, une partie de la société qui veut et qui assume mettre à bas ce mode de vie parce qu'il est vu comme islamophobe, xénophobe, machiste, anti-écologique. Et en fait, tout est résumé dans ce slogan MAGA. C'est retrouver les valeurs d'antan et d'une puissance passée. Donc en fait, revenir à ce mode de vie.
Il s'agit de dire que c'est vrai que Trump est à double face, mais MAGA est à double face. Parce que nous avons à l'intérieur de maintenant de MAGA, nous avons le côté Trump, mais nous avons aussi le côté Musk. Là, il y a quand même... il y a quand même une instabilité à l'intérieur de cette relation, une instabilité au cœur de MAGA, qui, elle, va se traduire, à mon avis, à l'intérieur de ces partis.
De ce qu'est le wokisme et qui vise essentiellement à lutter contre les discriminations raciales, sexistes et homophobes, entre autres, est devenu l'ennemi numéro un à abattre. Musk parle de détruire le virus woke. Javier Milei se bat contre le cancer de l'idéologie woke. Et Trump signe des décrets pour mettre fin au délire transgenre qui découlerait, selon lui, du wokisme. Et donc, ce sont des actes et des paroles qui en ont inspiré plus d'un de notre côté de l'Atlantique. Ce week-end à Madrid, plusieurs leaders d'extrême droite ont pris la parole sur ce sujet précisément. Geert Wilders, le leader du parti néerlandais, a dénoncé la démence woke. Viktor Orban, qui est un grand défenseur des valeurs traditionnelles de la famille et du christianisme, lui n'a pas caché sa fierté. Il a décrit son pays comme étant le laboratoire des politiques les plus conservatrices d'Europe. Et il a d'ailleurs précisé que dans la constitution hongroise, il est inscrit qu'un père est un homme et qu'une mère est une femme. Et chez nous, en France, le RN s'était déjà emparé de cette question juste avant les élections européennes de 2024. Le RN décrivait le wokisme comme un monstre à plusieurs têtes, une menace mortelle qui serait présente dans la culture, l'éducation et même dans certains médias. Catherine Fieschi, est-ce que cette rhétorique anti-woke, c'est devenu un sujet qui peut faire la différence dans les urnes au même titre que l'immigration ou le pouvoir d'achat?
Je pense que oui. Je pense que c'est un sujet qui, en plus, c'est... D'abord, il est bien choisi parce qu'il fait, il agit comme un pont, en quelque sorte, entre ces valeurs traditionnelles qu'ils veulent défendre et que veut défendre un Trump, et puis aussi la défense de, soi-disant, la liberté d'expression que veut absolument défendre Musk. Donc, je pense que c'est vraiment le sujet qui les relie, qui leur permet de se relier entre eux. Et puis aussi, en France, comme en Italie, comme ailleurs en Europe, c'est vrai qu'on s'est saisi de cette idéologie soi-disant woke, d'ailleurs, il faut bien le dire, pas simplement l'extrême droite, pour aller galvaniser un ressentiment qui est celui, finalement, de se sentir exclu des valeurs progressistes qui, soi-disant, sont celles des élites.
Et, côté, et Trump les a c'est une autre réalité. Aux États-Unis, on a vraiment eu des excès importants jusqu'en dans les universités. Les mêmes mouvements woke, par exemple, on les a vus au moment de l'affaire de Gaza, par exemple, développer des thèses qui étaient vraiment des thèses scandaleuses et qui ont choqué beaucoup d'Américains et beaucoup d'étudiants. Moi, j'ai ma fille qui vit aux États-Unis. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez fort. Donc, si vous voulez, on a une situation américaine qui est particulière où, comme d'habitude, tout est un peu excessif, d'accord? C'est un peu la vie américaine. En France et en Europe, c'est un petit peu différent, mais je crois que je partage votre analyse, en fait. C'est qu'en effet, parce qu'on a un malaise, malgré tout. Le problème, c'est qu'on a... On ne veut pas admettre ça, mais la force de ces forces nationalistes, c'est parce qu'il y a un malaise.
Oui, mais il y a un malaise. Mais justement, Charles Sabat...
Une anecdote à vous raconter. Ben oui, non, mais je vais vous raconter un peu de... C'est que quand j'ai fait un tour d'Europe et je me suis arrêté notamment au Portugal, il y a une force qui m'a beaucoup intéressé, une force nationaliste, une nationale conservatrice, qui s'appelle Chega. Elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle a fait x10 dans les urnes en 3 ans. Et je suis allé voir le patron de ce parti, enfin, c'était le numéro 2 à l'époque, je lui ai dit, est-ce que vous avez vu un moment où il y a eu un boom? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après, quelque chose d'extérieur, d'intérieur, qui a fait que vous avez croulé sous les adhésions et vous avez senti vraiment une accélération de votre mouvement? Et là, il m'a raconté, bah écoutez, oui, il y a eu un événement très simple en fait. C'est quand le comité de Miss Portugal a choisi une personne transgenre pour porter les couleurs du pays à Miss Univers. Alors, ce qu'on peut voir sous l'angle du wokisme et des revendications sociétales radicales, qu'est-ce que ça a eu pour effet? C'est qu'il y a toute une partie de l'électorat traditionnel des droites habituelles, non nationalistes, qui ont été très choqués par cette décision, qui se sont dit, ok, là, je vais voter non pas pour mes intérêts, Je vais voter pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent vivre dans la même société que j'ai connue. Ils se sont radicalisés et ils sont allés renforcer ces forces nationalistes. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais vous en citer plusieurs. Et en Europe, en fait, il y a cet effet de ce qu'on appelle le wokisme, de revendication sociétale radicale, qui fracture les électorats des droites traditionnelles, qui les radicalise et qui viennent donc s'adjoindre à l'électorat populaire traditionnel des forces nationales populistes ou nationales conservatrices.
Alors ça, les étatistes, les protectionnistes pur jus, les libéraux. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que ils sont tous, à la base quand même, tous ces mouvements sont des mouvements nationalistes. Mm-hmm. Donc c'est « make France great again », c'est « make the Netherlands great again », etc., etc. Donc déjà, à la base, ils ne vont pas être capables, en quelque sorte, d'incorporer le type de libéralisme, le type de vision que va leur demander Trump de faire des deals. Et ils ne sont pas, pour certains, c'est un très intéressant par rapport à Orban. Orban fait face à de graves difficultés économiques dans son pays. Mmh. Que se passera-t-il lorsque Trump lui dira qu'il faut se découpler, comme on dit, de la Chine, qui est son principal investisseur étranger? À mon avis, la romance entre les deux risque d'avoir du plomb dans l'aile.
En France, justement, sur ce qu'est Trump et en Europe. C'est-à-dire que Trump, ce que je disais, le double visage est réel. Le gars qui dit, moi, je veux l'Amérique, l'Angleterre, la France plus forte ou l'Europe plus forte et je suis avec Trump, il se trompe. Quand il dit quand je vois le dirigeant de Vos, il dit, nous sommes des frères d'armes. Non, il y a une armée qui vient en face de nous, c'est pas mon frère d'armes. Parce qu'il veut me bouffer mon marché, le cas échéant, si ça l'intéresse, et il veut me soumettre. Donc, t'es pas mon frère d'armes. Donc là, il y a une vraie confusion. Si je suis trumpiste, entre guillemets, à ce moment-là, je suis pour la France et l'Europe. Contre, y compris les États-Unis. Je ne suis pas pour Trump. Je ne suis pas frère d'armes de Trump.
Mais comment vous expliquez cette myopie ou cette étourderie de la part de...
Parce qu'en fait, je pense, que je disais tout à l'heure, le problème, moi je pense que la vérité derrière tout ça, c'est l'échec de moi, du camp qui est le mien, le camp de la liberté, le camp des valeurs des démocraties libérales. C'est qu'en fait, nous avons cru après la chute du mur de Berlin que la guerre était gagnée, que c'était fini, on pouvait faire notre business. Mais les gens, ils vivent pas que de pain, les gens, ils vivent spirituellement aussi. Or, nous avons été incapables de donner à ces humains, à ces Européens qui venaient de gagner la bataille contre l'URSS, on est incapable de leur donner les nourritures spirituelles, notamment l'amour de la créativité des femmes, d'accord, des enfants, etc. Ce que je raconte dans le livre, l'amour de la créativité.
Ce qu'on parlait quand même.
Appris de ses erreurs, entre guillemets, c'est-à-dire que autant elle s'était montrée assez trumpiste lors de sa première élection en 2017, là vous voyez que pendant la campagne américaine, elle était très discrète et lors de son élection, elle avait dit, même dans des boucles WhatsApp à ses cadres, mezzo voce, s'il vous plaît.
Ah oui.
Pourquoi ? Parce que elle se dit, pour prendre un exemple très précis, Donald Trump promet d'augmenter de 15% à 20% les taxes sur le vin, par exemple.
Et là, il vient de le faire aussi sur l'acier.
Qui 25 sur l'acier.
Qui est un débouché très important pour nous, pour c'est 15% de nos exportations vinicoles, les États-Unis. Marine Le Pen dit, c'est simple, en fait, les vignerons, c'est notre cœur électoral. C'est des gens qui votent pour nous, on a gagné notamment des circonscriptions en Gironde. On ne va pas applaudir Donald Trump, après on aura l'air malin devant nos électeurs. Et si vous voulez... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres nationalistes qui, en revanche, sont beaucoup plus pro-Trump. Mmh. Et ça s'explique aussi, parce qu'il y a des différences entre nationalistes, mais notamment pour les nationaux conservateurs, qui ne sont pas du tout des nationaux populistes, comme le Rassemblement National, et qui ont, en fait, en commun une vision civilisationnelle, et qui s'inscrivent, en fait, dans ce qu'on appelle l'Occident. Ils voient en fait la marche du monde, ils voient ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, ce qui se passe même en Afrique avec des pays européens qui sont boutés hors d'Afrique, et ils voient ça en fait comme une lecture du monde, c'est-à-dire c'est l'Occident contre le reste du monde.
Oui.
Et de fait, il y a une forme de leadership reconnu aux États-Unis qui dépasse en fait cette politique de taxes et qui disent au moins Donald Trump est aux manettes, il va avoir un soft power notamment sur tout ce qui est les valeurs sociétales, et on va se retrouver derrière ce leadership.
C'est ce qu'il y a. Oui. Ils font feu de tout bois, ils surfent sur cette vague, ils en profitent. Je pense que c'est essentiellement ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de Marine Le Pen au lendemain de l'élection de Trump. Dans ses tweets, elle rappelait que Trump allait devoir respecter les valeurs de l'Europe. Pareil pour Jordan Bardella.
Donc on
est quand même dans un... Il y a un certain paradoxe, n'est-ce pas? Ces partis soi-disant patriotes européens, soi-disant très critiques de l'Europe, leur première réaction, en France du moins, c'est de rappeler qu'il faut respecter les valeurs européennes. Je ne vous explique pas les réactions d'ailleurs sur leur bouc de la part de leurs supporters qui disaient mais comment, mais nous sommes des nationalistes, pourquoi l'Europe, de quoi nous parlez-vous? Donc de toute façon, je pense qu'ils vont être soit en porte-à-faux avec ceux qu'ils essayent d'imiter ou de suivre, soit en porte-à-faux avec leurs électorats. Et je crois que l'une des différences entre eux aussi à l'intérieur même de ce groupe, c'est ceux qui sont dans l'antichambre du pouvoir et qui font un petit peu attention à ce qu'ils disent, et ceux qui sont déjà au pouvoir, voilà, ceux qui sont déjà au pouvoir et qui peuvent se permettre d'être un petit peu plus libres de leur parole.
Oui, parce qu'en fait, quand ces gens-là se rendent compte que l'offensive de Trump est incompatible avec la défense.
Alors justement, ces envies d'expansion territoriale, ils peuvent être contradictoires.
Vous savez, le PIB des États-Unis, c'est 30 000 milliards de dollars. Le PIB de l'Allemagne, c'est environ 5 000 milliards. Nous, c'est 3 000 milliards. Notre PIB est inférieur à la capitalisation de Nvidia, qui est la première société d'intelligence artificielle dans le monde. Notre PIB est inférieur à cette société-là. Donc la question qui se pose est claire. Comment on fait face à cette offensive? Oui ou non, on développe l'innovation? Oui ou non, on développe la... Oui ou non, on s'allie entre nous, entre Européens, pour essayer de faire quelque chose?
Ça veut dire, Charles Sapin,
en
même temps,
aussi de cette vague venant de Trump, c'est en fait une imitation. C'est que égoïsme, pour vulgariser, c'est-à-dire se penser à soi et sa propre nation, en fait, soit contagieuse. Puisque là, on est exactement à l'ADN même de ce qu'est le nationalisme, c'est-à-dire avoir une conscience d'appartenir à une nation et penser que l'identité nationale est supérieure à l'identité de tous les groupes qui la composent, supérieure à l'identité des autres nations, enfin, aux intérêts, pardon, des autres nations, évidemment, et aux intérêts de tout ce qui est supra ou transnational. Donc, finalement, ils voient l'un des leurs prendre le pouvoir et l'affirmer haut et fort, et ils espèrent que ça sera contagieux.
Mais sauf que c'est
incompatible. Ça dépend. C'est-à-dire que l'appel à la puissance de l'un peut appeler la puissance de l'autre. C'est-à-dire qu'au moins, il l'assume.
Leur.
Mais il sera un heure aussi.